Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. Bonjour. Aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le chien, sans oser le demander. J'avais écrit une première introduction, mais je l'ai déchirée, un peu grandiloquente. Afin de lier le fond et la forme, cette émission sera toute en légèreté, fantaisie, clownerie, comme ces chiens de cirque dessinés par Toulouse-Lautrec, debout sur leurs pattes arrière, affublés d'un tutu rose et poudrés. Nous tournerons autour du meilleur ami de l'homme, quoique, il faudrait dire, le meilleur ami du chien, c'est l'homme. Hobbes déclare que l'homme est un loup pour l'homme. Prenons l'inverse, le loup serait un homme pour le loup. Dès que je peux, j'aime tirer la substantifique moelle de ces deux figures de style, mes préférées, la métonymie, ou le déplacement, et le chiasme. C'est ma manière de jouer à la baballe. Et comme le chien courageux pour qui la petite sphère remplit toute sa pensée, je ne m'en lasse jamais. Cela fait mon bonheur. Peu de choses, en somme. Mon désir secret, car je sais bien que les dévots du canin sortiront rassérénés dans leur amour, serait de convaincre, par esprit de finesse, que si le chien est un animal, il porte en lui, par son amour sans partage, sa drôlerie et ses pouvoirs extraordinaires, une part du divin. Et que son petit cœur plein de tendresse est toujours prêt aux effusions les plus vives. Comme dirait l'autre, Dieu reconnaîtra les chiens. C'est le pari, un dérivé de celui de Pascal, mais n'ayant qu'un but, divertir, parce que le rire n'est peut-être pas le propre de l'homme. J'ai toujours eu de l'intérêt pour les chiens. Petit, mes parents n'en avaient pas, mais dans l'immeuble, il y en avait plusieurs. Des bâtards, des compositions surréalistes, dues à des croisements improbables qu'on appelait des kikis. J'aime beaucoup ces chiens qui ne ressemblent à rien. C'est comme s'ils le savaient eux-mêmes. Ils laissent derrière eux l'odeur de drôlerie, de gaieté franche. Ce ne sont pas des snobs. Parlant d'odeur, le chien a les mêmes sens que nous, quatre, mais hypertrophiés, absolument incroyables, comme si c'était pour de bon de vrais petits extraterrestres au super pouvoir. Ainsi, s'il fallait trouver une équivalence au monde du chien, ce monde connu ou nouveau qu'il balise ou repère par l'urine de ses congénères, c'est un monde d'odeurs, une pensée en odeurs. Il lit les odeurs comme les mots dans un livre, et non pas le spectre pauvre et civilisé qui nous les fait classer en deux catégories si restrictives, les bonnes ou les mauvaises odeurs, mais la queue d'un paon. Un panel d'une extrême diversité, plein de nuances, aussi pointilliste et complexe qu'un tableau de Seurat. Et s'il n'y avait que son odorat qui était hors du commun. Lui, du chien, est d'une finesse vraiment admirable. Il est capable d'entendre une discussion à travers la vitre d'une fenêtre. J'ai fait de nombreuses fois une expérience, la voici. Arrêter un feu, un chien à l'arrière regarde ses maîtres à l'avant. Alors, murmurer, il est beau, il est beau, il est beau les chiens-chiens. Faut prendre surtout cette voix un peu bébête, les chiens adorent ça. Vous le verrez, il lèvera les oreilles et se tournera vers vous. Il est donc capable, l'animal, d'entendre un murmure à travers une vitre. Maintenant, quelques chansons spéciales pour les chiens. Si vous en avez un, n'hésitez pas à le rapprocher du haut-parleur et vous verrez comment il réagit.
Et maintenant, pour la première fois au monde, tu vas pouvoir entendre et apprendre de petites chansons spécialement destinées à ton chien. Tu verras qu'il en comprend le sens dans toutes les occasions de la vie.
Promenez, promenez, promenez dans la forêt, toutou, promenez, promenez, promenez dans la forêt, promenez, promenez, promenez dans la forêt, toutou, promenez, promenez, promenez dans la forêt.
Assis, gentil, couché, debout. Donnez la papate, donnez la papate. Assis, gentil, couché, debout. Donnez la papate, merci beaucoup.
La truffe sale et les papates mouillées, c'est le chien qui revient de promener. Boueux de la tête à l'arrière-train, c'est le chien qui revient du jardin. C'est l'heure de la toilette, lette, lette, c'est le babin du chien toutou. C'est l'heure de la toilette, lette, lette, la brosse, la doudouche et le shampoing.
Mais le chien a aussi un sixième sens. Combien d'histoires qui mettent en lumière cette intuition, cette capacité à entendre par exemple le bruit d'un moteur. Je me souviens que le chien de mes parents, 5 minutes avant que mes parents arrivent, savait qu'ils arrivaient. Donc il entendait le moteur à des kilomètres. Alors, maintenant, une pause avec l'inénérable Raymond Devos qui nous parlera de son chien.
Mon chien, j'ai un chien. Depuis quelque temps, il m'inquiète. Ben, il se prend pour un être humain. Et j'arrive pas à l'en dissuader. C'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, hein. Mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique. Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me promenais avec mon chien, comme ça que je tenais en laisse. Et je rencontre une dame avec sa petite fille. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Et la petite fille est venue me caresser la main. J'avais voulu faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser gentiment la main. Et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Et mon chien, lui, qui ne rate jamais une occasion de se taire, a cru m'en ajouter, il ne lui manque la parole, madame. Ça vous étonne, hein ? Ah ben moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que cette dame, qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler, alors ça, moi j'aime mieux vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'ai été surpris. C'était un soir, après dîner. J'étais allongé sur le tapis. Je somnolais. Mon chien était assis dans mon fauteuil. Il regardait la télé. Il n'était pas dans son assiette non plus. Je le sentais, parce que j'ai un flair terrible. Hein. À force de vivre avec mon chien, le chien, je le sens. Et subitement, mon chien me dit, on pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne. J'ai pas fait attention tout de suite. Il dit, mais c'est la première fois que tu me parles sur ce ton. Il me dit, oui, jusqu'à présent, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins. Je lui dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il me dit, ta soupe n'est pas bonne. Et ben, je lui dis, t'as pas tes non plus, mon vieux. Et subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien. J'ai dit, tu n'es qu'une bête. Je ne veux pas discuter avec toi. Enfin, quoi? Un chien qui parle. Est-ce que j'aboie, moi? Quoique. Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir. Il était allé aux puces. Et moi, j'étais resté pour garder la maison. Tout d'un coup, j'entends sonner. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Au lieu d'aller ouvrir, je me suis mis à aboyer. Mais à aboyer, wap, wap, wap. C'est que mon chien qui attendait derrière la porte a tout entendu. Ouais, c'est depuis, j'en suis plus le maître. Avant, quand je lui lançais une pierre, il la rapportait. Maintenant, non seulement il ne la rapporte plus, mais c'est lui qui la lance. Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est-ce que j'entends? Je suis devenu sa bête noire. Mon chien, c'est quelqu'un. Mon chien, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Et vous aurez raconté tout ça mieux que moi, parce que moi, quand je raconte cette histoire, je sens bien que les gens ne me croient pas. Alors que lorsque c'est mon chien, ils sont tout ouïs.
Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Il était où? Il était le gentil Tikiki. Et où il est le pépère au Wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? son papa, le bon pépère que son kiki préfère.
Et sa mémère alors, et sa mémère, où elle est la mémère à sa nounouche. Elle était où, hein, sa mémère, qui donne du susuc avec la boubouche.
Il était où, hein, le Yuki.
Il était où, le gentil titoutou. Il était où, hein, le Yuki. Le gentil titoutou, il était où.
Où c'est qu'il était son papy et son pépère, où c'est qu'était. Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil kiki à mamie.
Où ça, hein, où ça. Où ça, hein, où ça.
Il était là le bouchou kikichou. Il était là le plus beau des cookies. Il était là qui, le beau poupou. Le plus joli de tous les bounouki.
Et c'est à qui tout ça.
C'est à kiki.
C'était les papas de poilu.
Et la queue, hein, c'était à qui. C'est à Yuki la queue qui remue.
Et le Yuki alors, il est à qui. À qui c'était le mignon choupinou. À qui c'était, hein, le beau Yuki. À son papy ou bien à sa nounou.
Il est à qui, hein, le kiki.
Il est à qui le gentil titoutou.
Il est à qui, hein, le Yuki.
Le gentil titoutou, à qui c'était.
C'était pas à son papy, à son pépère, alors à qui il était le Yuki. Si c'était pas à sa mamie,
à qui, hein, à qui,
qu'est-ce qu'il a fait là, oh là le vilain. Kiki a mangé des bouts de caca. Non mais des fois, oh vilain tout plein. Non mais Kiki, qu'est-ce qu'il m'a fichu ça. Veux-tu venir ici gros dégoûtant. Et pas bouger, assis debout couché. À son panier, oh le méchant. Va te coucher, son pépère est fâché.
Kiki t'a vu pépère, est en colère. Le pépère à Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on est pas malheureux.
Le plus cucu, hein, c'était qui. Mais qui c'est idée de le plus neuneux. Le plus neuneux, hein, c'était qui. C'est qui le plus cucu des deux. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui.
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui.
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui.
Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki. C'est son papy ou sa mamie.
C'est qui, hein, c'est qui.
De toute façon c'était pas le Yuki.
Alors c'est qui.
Et si c'était pas son papy.
Le modèle du chien fidèle éclaire d'une lumière sublime la fin de l'Odyssée d'Homère, écrite il y a plus de 2000 ans. Le chien s'appelle Argos. Argos signifie en grec « clair, blanc ». Lorsque Ulysse revient chez lui après un exil d'une vingtaine d'années, il a vieilli, personne ne le reconnaît. Hormis Argos, qui couché sur un tas de détritus, descend, marche vers lui, remue la queue, puis meurt. Argos, notons-le, était un excellent chien de chasse. C'est son maître qui chassera à son tour les prétendants, les tuant tous, un massacre, comme une chasse à cour, tous passés au fil de l'épée. Voilà donc le récit qui montre le lien entre bête, le bestial, et les hommes, l'humain. La chasse en est le plus bel exemple. Il faut revenir au récit qui, dans la Bible, nous raconte le premier meurtre entre les deux frères, Abel et Caïn. Caïn finit par chercher la piste d'Abel et le tuer. La chasse humaine est donc l'écho lointain de la traque des animaux. Voilà le texte de l'Odyssée. Ulysse et Eumée parlent ainsi. Soudain, un chien couché près d'eux lève sa tête et dresse ses oreilles. C'est Argos que le vaillant Ulysse avait élevé lui-même. Mais ce héros ne peut voir le succès de ses soins, car il partit trop tôt pour la ville sacrée d'Ilion. Jadis, les jeunes chasseurs conduisaient Argos à la poursuite des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres. Mais depuis que son maître était parti, il gisait honteusement sur le vil fumier qui restait entassé devant les portes. C'est là que repose étendu le malheureux Argos, tout couvert de vermine. Lorsqu'il aperçoit Ulysse, il agite sa queue en signe de caresse et baisse les deux oreilles. Mais la faiblesse l'empêche d'aller vers son maître. Ulysse, en le voyant, essuie une larme, puis prononce ces paroles. « Aimé, je m'étonne que ce chien reste ainsi couché sur le fumier, car il est d'une grande beauté. » Le pasteur Aimé lui répond en disant « Hélas, c'est le chien de ce héros qui est mort loin de nous. » Quand Aimé a achevé ces paroles, il entre dans la demeure d'Ulysse et va droit à la salle où se trouvaient les fiers prétendants. Mais le fidèle, fides en latin c'est la foi, mais le fidèle Argos est enveloppé dans les ombres de la mort, dès qu'il a revu son maître après 20 années d'absence. Alors j'ai tellement d'anecdotes à propos des chiens, chaque chien ayant son caractère, ses défauts, ses dons innés, que je ne les dresse jamais, mais je me sers de leurs capacités pour les encourager et ainsi faire de mon chien un partenaire à part entière. J'ai tellement d'anecdotes, un Pékinois qui dansait en se trémoussant sur la musique, le Bougadou qui pleurait de bonheur lorsqu'on lui caressait la tête, Jim, le chihuahua, qui dormait sur ma poitrine pendant la sieste, que j'ai choisi de vous raconter une histoire de fantôme. Le fantôme d'un chien. Avant notre premier enfant, nous avons eu un chien appelé Ulysse. Un soir, on le promène détaché, car il écoutait au doigt et à l'œil. De l'autre côté, il voit un chien, une femelle, et traverse la route. Au même instant, une voiture arrive. Mort sur le coup. L'après-midi, au même endroit exactement, une voiture s'arrête. Je la vois de la fenêtre du 7e étage. Des flammes sortent du capot. Les gens ont juste le temps de sortir et elle brûle totalement pendant plusieurs heures. Le soir même, après avoir pleuré, des heures durant, je fais un rêve d'une netteté incroyable, un rêve lucide. Ulysse, qu'on appelait aussi Woutoutou, plane dans la chambre, il vient vers moi. Je le vois à quelques centimètres, il me regarde, puis rebrouche chemin et disparaît. J'ai toujours pensé qu'il est venu me dire au revoir. Le lendemain matin, je raconte cette vision à Géraldine. « Il m'est arrivé la même chose, s'exclame-t-elle. J'ai fait un rêve d'une incroyable précision, dit-elle. Notre chien était couché au pied du lit. » Il n'avait pu nous dire au revoir. Les adieux étaient faits comme ça. Depuis, naïvement, c'est une idée qui me fait du bien. J'espère que tous nos chiens nous attendent aux portes du paradis. Pour finir ce magnifique, forcément magnifique poème de Victor Hugo, la mort du chien, qui reprend de manière subtile et légèrement déplacée le topos d'Argos et d'Ulysse. Je passe le début du poème où Hugo montre la cruauté des enfants qui n'ont qu'offert de ce pauvre chien en train de mourir. Le poète s'approche de la bête. Je me suis arrêté près de la triste bête qui, sourde, ne bougeant ni le corps ni la tête, les yeux fermés, semblait morte sur le pavé. Comme le soir tombait, le maître est arrivé, vieux lui-même, et attend son pas que l'âge casse, à murmurer le nom du chien à voix basse. Alors, ouvrant ses yeux pleins d'ombre, exténué, le chien a regardé son maître, a remué une dernière fois sa pauvre vieille queue, puis est mort. C'était l'heure où, sous la voûte bleue, comme un flambeau qui sort d'un gouffre, Vénus luit, et j'ai dit, d'où vient l'astre? Où va le chien? Ô nuit!
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien, Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était que du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmant Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue-leu-leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle. Et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loups sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. attiré par l'odeur du sang. Il en vint des mille et des cent, Père Carousse, Liesse et Bonvance, dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups, les loups, les loups.
Eh bien, nous remercions Simon à la technique, Géraldine à la programmation musicale, et au mois prochain pour une nouvelle émission d'À bâtons rompus. Bonsoir.
Enfin, bonsoir.
Au revoir.
Kiss my love and wish you're gone with the kiss my love.